Agnès Salle, merci de rejoindre la tribune.
Bien. Bonjour à toutes et à tous. Merci infiniment pour cette invitation qui m'honore, qui me fait grand plaisir également, puisque pour parler, ce que je vais essayer de faire, de diversité et d'égalité, quelles autres institutions culturelles que les bibliothèques incarnent davantage ces enjeux sociaux, sociétaux, culturels, mais aussi profondément politiques. Je voudrais peut-être vous dire un mot avant de m'intéresser davantage à ce domaine que vous connaissez bien mieux que moi, qui est celui des bibliothèques, vous dire un mot de la démarche globale à laquelle je m'attache depuis maintenant quelques années, depuis 4 ans, au ministère de la Culture, qui est cette démarche qui tend à prévenir les discriminations et à promouvoir la diversité, on va y revenir, et l'égalité entre les femmes et les hommes. Le ministère de la Culture, vous en avez peut-être entendu parler, a en effet engagé, dès les années 2018-2019, et même un peu avant, un travail qu'il était temps d'engager, vraiment, autour de ces questions. Et le ministère a voulu interroger, de façon très transversale, très intégrée, l'ensemble des politiques menées à la fois par lui-même, par ses opérateurs, mais également par l'ensemble du secteur culturel et artistique, en se posant un certain nombre de questions et en mettant en place un certain nombre d'outils. Les questions, finalement, sont un peu celles qu'on a commencé d'évoquer depuis le début de cette matinée, que vous allez continuer à creuser. Ce sont celles qui tournent autour de l'exclusion. De l'inclusion, bien sûr, mais de l'exclusion aussi. Ne sommes-nous pas, finalement, contre notre gré, bien sûr, enfin, la plupart du temps, en tout cas, à l'origine de discriminations excluantes? Ces discriminations, elles peuvent se jouer à beaucoup d'égards et de divers points de vue. Les divers points de vue, ce sont les 25 critères interdits de discrimination qui sont inscrits au code pénal. C'est un délit que de discriminer. Au vu d'un certain nombre de critères qui sont évidemment le critère du genre, le critère du handicap, de l'état de santé, de l'orientation sexuelle, de l'identité de genre, de la vulnérabilité économique, du lieu de résidence, comme ça beaucoup de critères, de l'origine ethno-raciale, et on sait bien, on mesure parfois de façon précise, dans le cas des inégalités entre les femmes et les hommes, ou du handicap, parfois de façon beaucoup plus distante, et malheureusement on manque de données chiffrées, les autres causes et les autres conséquences des risques de discrimination, mais nous savons que ces discriminations sont à l'œuvre dans l'ensemble des politiques culturelles, dans l'ensemble des secteurs culturels et artistiques. Et le ministère de la Culture a voulu prendre à bras le corps cette question de façon également très proche d'enjeux sociaux, sociétaux, qui, à un moment donné, se sont mis ensemble pour l'inciter, pour le pousser, c'est très bien ainsi, il faut que ça continue de l'être, pour le pousser à prendre enfin conscience à la fois des risques de discrimination et de la responsabilité majeure à la fois de l'administration culturelle, des institutions sous sa tutelle et de l'ensemble du secteur culturel et artistique pour œuvrer à l'identification d'abord des discriminations, parce qu'il faut connaître, il faut compter, il faut savoir de quoi on parle, et puis à la lutte contre ces discriminations. Nous avons commencé peut-être par le plus facile, encore que, qui sont les inégalités entre les femmes et les hommes. Pourquoi le plus facile? Parce que nous étions déjà outillés, équipés pour les mesurer. Nous avons, depuis maintenant une dizaine d'années, un observatoire de l'égalité entre les femmes et les hommes dans la culture et la communication, qui est une publication qui sort chaque année au mois de mars, qui est réalisée par le département des études et de la statistique du ministère de la Culture, à laquelle désormais, depuis 4 ans maintenant, je collabore très activement, et qui permet, en une série de 80-90 tableaux, de mesurer l'état de l'égalité, ou plutôt des inégalités entre les femmes et les hommes, dans tous les secteurs de la culture, de la communication, en interne au ministère, dans les établissements publics, à la tête des institutions culturelles, dans l'accès aussi aux moyens financiers de création, de production, de diffusion. Et cet outil, qui existe, je vous le disais, depuis 2013, sortait chaque année, faisait apparaître dans les tableaux une constance, un maintien d'inégalités insupportables, intolérables, mais pour autant, la situation ne changeait pas et les tableaux, imperturbablement, sortaient chaque année et faisaient la preuve que les inégalités perduraient. Depuis 2018, le ministère de la Culture, avec toute une série d'outils, la double labellisation diversité et égalité de l'AFNOR, dont vous avez peut-être entendu parler, dont plusieurs institutions culturelles, à la suite et à l'initiative du ministère de la Culture, se sont emparées, avec d'autres outils puissants qui ont, par exemple, permis au ministère de nommer à la tête d'institutions culturelles prestigieuses. On pense évidemment au musée du Louvre, on pense à l'École nationale supérieure des beaux-arts, à beaucoup d'autres institutions culturelles, des femmes tout à fait présentes et tout à fait talentueuses et capables d'assumer ses responsabilités. Le prétexte, qui est une espèce de fauné de l'absence de vivier, devait impérativement être mis à bas pour qu'on comprenne que les femmes sont là et qu'elles n'attendent que d'être nommées pour faire la preuve de leur talent et de leurs compétences. Donc les nominations. Donc également une attention particulière portée à la manière dont les femmes accèdent effectivement à la possibilité de créer, de produire, de programmer et de disposer donc des moyens financiers, de moyens financiers équivalents à ceux dont leurs collègues hommes disposent dans les différents champs culturels et artistiques. Un travail particulier également s'est engagé pour prévenir et lutter contre les violences et le harcèlement sexuel et sexiste qui sont une réalité absolue, je dirais presque malheureusement quotidienne, dans nos univers, pas seulement dans les champs de la culture, de l'art, de la communication, de l'audiovisuel, du cinéma, partout dans la société. Mais pour autant, au sein du secteur culturel, il ne s'agissait absolument pas de nier l'évidence qui est cette présence, encore aujourd'hui, et malheureusement de nombreux cas me parviennent chaque semaine encore, et qui doivent impérativement faire l'objet de mesures. Et le ministère de la Culture est allé très loin. Je m'en félicite évidemment de façon très très enthousiaste, puisque le ministère de la Culture a décidé, grâce à l'engagement fort de plusieurs ministres successifs, d'abord Françoise Nyssen, puis Franck Riester, Roselyne Bachelot-Narquin et aujourd'hui Rima Abdul-Malak, le ministère de la Culture donc a posé un principe très puissant, qui a consisté à dire que les aides financières publiques, en tout cas les aides financières accordées par le ministère de la Culture, par ses établissements publics, devaient désormais être conditionnées à l'engagement effectif, vérifiable évidemment, de la part des structures culturelles demandant à être subventionnées, à être aidées financièrement, donc l'engagement fort de mettre en place des outils, des dispositifs efficaces de lutte contre les violences et le harcèlement sexuel et sexiste. Et on voit aujourd'hui à quel point ces outils mis en place, des formations, des référents internes, des procédures permettant de mener des enquêtes, des signalements au procureur de la République, des sanctions effectives prises contre les personnes qui se rendent coupables de ces délits et parfois de ces crimes quand il s'agit de viols. Donc tout cela, on l'a mis en place en peu de temps, finalement en 2 ans, tout l'arsenal était posé et le conditionnement financier était également effectif. Et on voit à quel point les structures culturelles, un opéra, une école, une bibliothèque, un musée, sont maintenant mieux à même d'affronter ces difficultés. Parce que comment imaginer parler d'égalité entre les femmes et les hommes dans l'environnement professionnel si ce risque de violence et de harcèlement sexuel et sexiste continue d'être prégnant? Donc un ensemble d'outils et un ensemble de mesures portées par une volonté politique très forte. Pour autant, sur l'égalité entre les femmes et les hommes, ne nous voilons pas la face. Le chemin est encore long. La parité n'est pas à l'œuvre, en tout cas pas à l'œuvre partout. Et les risques de retour en arrière sont toujours extrêmement présents. Souvenons-nous, ça n'est pas si loin, de la période de la pandémie, où, alors même qu'au cours des années antérieures, on avait constaté je vous donne un exemple, sur les plateaux de télévision, dans les studios de radio, une présence de plus en plus efficace et visible des femmes expertes. Enfin, on se rendait compte que les femmes, dans tous les domaines, dans la diplomatie, dans la science, dans la politique, dans l'économie, avaient des choses à dire et le disaient bien. Et on les invitait de plus en plus. Les observatoires du CSA, désormais ARCOM, prenaient la mesure de cette présence accrue des femmes, passées de moins de 20% à 35, voire 40% sur certaines chaînes, notamment de l'audiovisuel public. On s'en félicitait. Puis d'un coup d'un seul, au moment de la pandémie, on a vu apparaître sur les plateaux de télévision notamment une présence massive et quasi exclusive d'hommes sachants, des politiques, des scientifiques, des personnes chargées de la sécurité. Et on s'est demandé où étaient passées les femmes. Donc on se rend compte finalement que les risques de retour en arrière sont là et que les paroles de Simone de Beauvoir résonnent toujours à nos oreilles. Donc, une grande vigilance, non seulement parce que dans le monde, nous avons des exemples terrifiants de retour en arrière, d'empêchement, d'enfermement des femmes. On a parlé tout à l'heure, à très juste titre, de l'Afghanistan, de l'Iran. Pensons que dans nos univers occidentaux, aux États-Unis, dans l'Est de l'Europe, le droit à disposer de son corps n'est plus aussi assuré qu'on le pensait. Donc les retours en arrière sont toujours possibles, chez nous également. Donc se dire que sur l'égalité entre les femmes et les hommes, même si des progrès ont été enregistrés, le compte n'y est pas encore et que le risque de recul est toujours présent. Et puis, au-delà de l'égalité entre les femmes et les hommes, sur le sujet sur lequel il faut impérativement continuer d'avancer sur l'égalité salariale, sur la conciliation des temps, sur la présence dans les programmations, et on y reviendra peut-être tout à l'heure, sur la possibilité pour les bibliothèques de faire en sorte que dans les collections, dans les animations, dans la programmation des lieux que vous avez à animer, à diriger, à piloter, les femmes soient au moins aussi présentes, aussi présentes que les hommes. Donc tout cela forme un ensemble cohérent. Il ne faut rien lâcher, mais en parallèle, s'interroger sur la diversité, sur les diversités, implique d'interroger les autres critères d'exclusion que je mentionnais rapidement tout à l'heure, notamment celui de l'origine, celui de l'origine sociale aussi, de l'origine ethno-raciale, mais également de l'origine sociale, du lieu de résidence, du handicap de l'état de santé, de l'orientation sexuelle. Et là, je le disais en introduction, nous sommes encore très démunis. Tout à l'heure, il y a eu une question sur les outils de mesure, notamment. Nous sommes, en France en tout cas, assez mal outillés, assez mal armés pour mesurer cette diversité ou cette absence de diversité-là. Et c'est l'un des enjeux, justement. Nous avons une feuille de route égalité, maintenant depuis quelques années. Et l'un de mes principaux enjeux pour l'année 2023 et les années suivantes, c'est d'élaborer une feuille de route diversité avec des outils d'observation, parce qu'on ne combat bien que ce qu'on mesure et ce qu'on connaît. Et on a vu à quel point l'existence de statistiques sur l'égalité femmes-hommes a été un déclencheur efficace, puissant, pour prendre la mesure de ce qui n'allait pas et pour prendre des dispositions plus ou moins efficaces, mais enfin quand même, qui ont commencé à faire la preuve de leur efficacité pour corriger ces inégalités. Sur les diversités, nous avons impérativement besoin d'outils que nous sommes en train d'élaborer, en lien évidemment, compte tenu de la frilosité ou de la prudence de la France en matière de décompte, de mesure de ces diversités, notamment sur l'origine. Donc, ce travail se fait en lien avec la CNIL, avec la Défenseur des droits, avec la DILCRA, avec l'INED, qui a également l'habitude de mesurer dans sa grande enquête trajectoire et origine la diversité et son impact sur les discriminations, sur les exclusions. Donc un gros travail à mener. Et puis également interroger les politiques culturelles à l'aune non seulement de l'égalité entre les femmes et les hommes, mais également de la présence ou de l'absence des diverses formes que prennent les diversités dans les structures culturelles, à la fois dans les équipes qui composent les structures, c'est vrai des bibliothèques, c'est vrai des musées, c'est vrai des structures du spectacle vivant, c'est vrai du cinéma, de l'audiovisuel, du jeu vidéo, de l'architecture. Enfin, il n'y a pas un seul domaine culturel et artistique qui soit à l'abri, finalement, de la mise en œuvre volontaire, mais le plus souvent involontaire, de discrimination, à la fois dans la composition des équipes, dans l'accès des publics qui ont vocation à pratiquer ou à fréquenter ces institutions, mais également dans les programmations. C'est vrai d'une exposition dans un musée, c'est vrai de la constitution d'une collection dans une bibliothèque ou dans la programmation culturelle d'un lieu comme une bibliothèque, c'est vrai d'un lieu de spectacle, d'une scène de musique, de danse, de théâtre, c'est vrai d'une série télévisée, d'un documentaire, d'un film, d'une fiction, c'est vrai d'un jeu vidéo, c'est vrai dans nos écoles, nous avons un réseau formidable. On a parlé tout à l'heure de l'ENSIB, mais nous avons un réseau au ministère de la Culture de pratiquement 100, pour être précise, écoles qui sont des écoles d'art, des écoles d'architecture, des écoles comme l'Institut National du Patrimoine, l'École du Louvre, la FEMIS, qui ont la responsabilité magnifique de former celles et ceux qui, demain, occuperont des positions, des places dans l'ensemble des structures culturelles et artistiques du pays. Donc, comment interroger ces écoles sur la manière à la fois dont elles recrutent, qui est élève dans ces écoles, où se joue la discrimination, à l'entrée, avant l'entrée, pendant le déroulement des études, à la sortie, au moment de l'insertion professionnelle. Et c'est absolument passionnant de s'interroger et de poser ces questions en interrogeant en parallèle l'enseignement qui est dispensé. Un exemple, si dans les écoles d'architecture, comme c'est encore aujourd'hui le cas, vous donnez à connaître aux élèves qui sont composés à majorité dans nos écoles de jeunes filles, de jeunes femmes à 58 ou 60%, mais si vous ne leur donnez à connaître que des modèles masculins, ne vous étonnez pas qu'à l'arrivée, avec ces 60% de filles dans les écoles d'architecture, seules aujourd'hui 8 à 10% d'agences d'architecture soient dirigées par des femmes. Donc il y a, vous voyez bien à quel point cette évaporation peut avoir des raisons. Et la responsabilité des écoles consiste à la fois à s'interroger sur l'enseignement, à s'interroger sur la personnalité et sur le genre aussi des enseignantes et des enseignants, mais également sur la meilleure manière d'accompagner les élèves, les garçons bien sûr, mais les filles aussi, et je dirais presque surtout, à démonter les obstacles qu'elles auront à affronter dans le fil de leur parcours professionnel. Et ces obstacles auxquels se heurtent les jeunes filles, les jeunes femmes dans nos écoles, je suis convaincue qu'ils se rencontrent également et qu'ils qu'ils s'opposent à beaucoup de parcours de jeunes, à la fois garçons et filles, talentueuses et talentueux, qui ont d'autres motifs d'être mis à l'écart, d'être exclus, à la fois leur la vulnérabilité économique, l'origine sociale, l'origine géographique, l'origine ethno-raciale, la situation du handicap, de l'état de santé. Et donc, il nous appartient absolument d'interroger au travers de l'ensemble des politiques que nous mettons en place, avec aussi parfois l'utilisation pleine et entière du levier financier. Je parlais du conditionnement des aides sur les violences et le harcèlement sexuel et sexiste. Peut-être faut-il s'interroger, sans bien sûr mettre de frein à la liberté d'expression, à la liberté de création, mais peut-être faut-il s'interroger sur la manière dont l'État, la puissance publique, en tout cas le ministère de la Culture, les collectivités territoriales aussi, je sais à quel point beaucoup d'entre elles sont engagées dans des démarches d'égalité et de diversité, et parfois ont mis en place des outils absolument passionnants que l'État, jusqu'à présent, s'est révélé plutôt, pardon du terme, infoutu de mettre en place. Je pense au budget sensible au genre, que j'appelle de mes voeux, mais qui pour l'instant se heurte à des réticences ou à des oppositions assez farouches. Nous verrons si nous parvenons à progresser. Mais cet ensemble de potentialités portées par les acteurs et actrices de la puissance publique, l'État, les collectivités territoriales, doivent à mon sens, enfin, c'est ma position, mais c'est en tant que haute fonctionnaire diversité et égalité que je la porte avec beaucoup de véhémence et d'enthousiasme. On me dit parfois, tu es une militante. Oui, je le revendique aussi parce que je ne pense pas qu'on puisse porter ces sujets-là avec indifférence ou avec frilosité ou avec froideur ou avec distance. Mais je suis convaincue du rôle puissant que la puissance publique, dans toutes ses incarnations, doit jouer pour prévenir, pour identifier d'abord, puis pour prévenir, puis pour lutter contre toutes les formes de discrimination. Et je suis convaincue que les bibliothèques, pour y revenir, et c'est vous qui en parlerez infiniment mieux que moi, ont sur la totalité de notre territoire national et ultramarin une responsabilité majeure à cet égard. Et vos questions, je l'espère en tout cas, permettront peut-être, vos questions et vos remarques, vos réactions, permettront sans doute, avec la suite de la journée et celle de demain, d'illustrer encore davantage cette responsabilité, ce rôle majeur qui est le vôtre.
Merci beaucoup. On va laisser, voilà.
Bonjour, merci pour votre intervention. Moi, j'ai une question assez concrète. On en parlera sûrement dans la journée sur la question de la diversité des équipes qui composent les médiathèques. Parce que, bon, sur la question homme-femme, je pense que de toute façon, on est une majorité de femmes en médiathèque quand même toujours. Donc, moi, j'ai une vraie question. Collaborez-vous avec le ministère de l'Éducation, en l'occurrence son représentant actuel, Pape Ndiaye, sur la question de la représentation des personnes racisées dans les équipes qui font cruellement défaut. Et quand on travaille en médiathèque, notamment dans les quartiers, on se retrouve très concrètement avec des équipes qui sont très souvent pas du tout à l'image des publics que nous accueillons. Ça ne veut pas dire qu'on ne fait pas bien le travail, ça veut dire que en fait, ce qui se passe, c'est que les jeunes qui arrivent ne peuvent pas s'identifier à nos métiers. Alors, ils voient parfois, pour ce qui est de la mienne, de médiathèque, un vigile à l'entrée qui est de couleur, et c'est la seule personne. Et quand on discute avec ces jeunes, on leur fait part de nos métiers qui sont très différents de ce qu'ils imaginent, en fait. Et souvent, ils le découvrent. Donc, est-ce qu'il n'y aurait pas moyen d'imaginer des choses avec très tôt, avec le ministère de l'Éducation, pour inciter les jeunes à fréquenter les médiathèques et les autres équipements culturels, notamment le fameux stage de 3e, imposer, je ne sais pas comment, que ces stages soient, parce que en fait maintenant ils peuvent être dans n'importe quelle structure, qu'il y ait au moins un stage dans la scolarité qui soit effectué dans une structure culturelle.
Votre question pose est au cœur de notre problématique, parce que cette absence flagrante de capacité à se reconnaître dans les structures culturelles, c'est vrai dans les bibliothèques, dans les médiathèques, mais c'est vrai partout. C'est vrai dans les musées, c'est vrai dans l'ensemble des structures de spectacles vivants, de création, dans les centres d'art, dans les FRAC, dans les centres dramatiques nationaux. C'est vrai partout, et il est très difficile pour une bonne partie de notre population qui, selon les calculs de l'INED, les personnes dont l'origine est diverse, c'est-à-dire qui ont des parents ou des grands-parents nés ailleurs qu'en France, ça représente quand même entre 25 et 30% de la population française, donc c'est quand même une part considérable de notre société, et cette part-là ne se retrouve pas dans les équipes qui composent des structures culturelles et vraisemblablement encore moins, si c'est possible, dans les programmations. Et inévitablement, ça ne peut pas ne pas avoir d'impact sur la fréquentation même de ces publics et de ces structures. Si vous vous rendez dans nos grandes et belles institutions culturelles, à Paris, en Ile-de-France, mais également en région, si vous fréquentez les salles de théâtre, les salles de musique, vous vous rendez compte que le public est quand même assez largement blanc. Absolument, je sais. Alors, à l'inverse, la question que vous posez, c'est-à-dire les équipes qui accueillent, c'est une question fondamentale. Et vous posiez la question de la collaboration avec le ministère de l'Éducation nationale. Oui, bien entendu. Et nous avons la chance, en tout cas aujourd'hui, au moins de ce point de vue-là, je ne me prononcerai évidemment pas sur son action en tant que ministre de la culture, de l'éducation nationale, pardon, de Pap Ndiaye, mais nous avons la chance d'avoir là une personne que nous connaissons très bien. Moi, j'ai travaillé avec lui dès le rapport qu'il a élaboré à la demande de l'Opéra National de Paris sur la diversité à l'Opéra, et nous avons beaucoup œuvrer ensemble pour identifier les freins et les facteurs de risque au sein de cette grande maison. Et les travaux d'ailleurs se poursuivent encore aujourd'hui avec les équipes de l'Opéra. Et puis il a été aussi quand même brièvement à la tête d'une institution culturelle qui est l'établissement public de la Porte Dorée, Musée National de l'Immigration. Et on sait à quel point il est attaché à ces questions. Il en fait part d'ailleurs dans l'ensemble de ses prises de position publiques, à la fois d'égalité mais également de diversité. Alors, comment faire en sorte, justement, et c'est une problématique pour l'ensemble de la fonction publique, que la fonction publique, dans son ensemble, accueille des personnes, d'une part, maintiennent son attractivité, ce qui n'est pas tout à fait le cas aujourd'hui, on en parlait en introduction, c'est un risque pour l'ensemble de la fonction publique que de ne plus ou de beaucoup moins attirer des jeunes intéressés par ces métiers, et d'autre part, en maintenant son attractivité ou en l'accroissant, fasse en sorte, ces différents métiers de la fonction publique, fasse en sorte d'attirer des personnes qui, jusqu'à présent, en ont été, sans doute involontairement, écartées ou exclues. Et je pense qu'il y a un certain nombre de dispositifs qui sont à l'œuvre. On travaille non seulement avec le ministère de l'Éducation nationale, avec le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, mais également avec le ministère de la fonction publique, à un ensemble de dispositifs qui doivent, et je l'espère à court terme, permettre de diversifier les viviers de recrutement. C'est vrai dans vos métiers, mais c'est vrai dans l'ensemble des métiers de la fonction publique, de façon à faire en sorte que se rapproche la réalité de la diversité de la société, de la population française, avec ce qui se reflète dans les institutions public en général et culturel en particulier. Donc oui, votre question est à la fois cruciale, on n'en a pas immédiatement la réponse, on sait comment l'articuler, mais on en aura vraisemblablement que dans quelques années, le temps que ces jeunes générations constituées de populations diverses se rendent compte que ces métiers sont également faits pour elles, s'y prépare dès l'école, comme vous le dites très justement, y accède et exerce enfin de plein droit et avec toute la compétence dont ces jeunes et moins jeunes sont capables, les métiers qui, jusqu'à présent, sont quand même très largement confiés à des personnes qui ne reflètent pas la totalité de la diversité de la population française. Donc oui, le point est crucial et nous n'avons encore que très peu avancer à cet égard, contrairement à ce que nous avons commencé de faire sur l'égalité entre les femmes et les hommes.
Bonjour Madame Sahal, par ici. Tout d'abord, merci pour votre intervention très riche ce matin. Je voulais revenir en fait sur ce que vous avez souligné tout à l'heure, à savoir la faiblesse des outils de mesure de la diversité et la frilosité de la France du coup à cet endroit, et sur le fait que vous travaillez justement à l'élaboration d'outils satisfaisants pour quantifier tout ça et pouvoir mieux lutter contre les discriminations. Ma question est la suivante, avec la montée de l'extrême droite, est-ce que vous pensez déjà la collecte de ces chiffres, de façon à ce que leur objectif de discrimination positive aujourd'hui ne devienne pas un jour de la discrimination négative avec des conséquences catastrophiques en cas de revirement politique? Merci beaucoup.
Le risque existe. D'un autre côté, se voiler la face et ne pas vouloir comprendre, mesurer la diversité, c'est également un péril majeur. C'est-à-dire que cette diversité-là, elle existe. On ne la compte que très imparfaitement aujourd'hui, encore que, j'y faisais allusion, des structures comme l'Institut national d'études démographiques a d'ores et déjà des outils pour la mesurer. Donc on sait bien comment est composée la société française. Moi, mon projet, mon but, mon objectif, c'est de faire en sorte de rapprocher la réalité de cette diversité qui est là, dans notre société, de la réalité de la composition des équipes, des programmations dans le secteur qui est le mien, qui est celui dont j'ai à m'occuper, de la culture, de la communication, de l'audiovisuel, enfin, de l'ensemble des secteurs culturels et artistiques, pour montrer que finalement, si c'est le cas, je crois que c'est le cas, mais pour l'instant, ce sont des intuitions et pas des outils, ce ne sont pas des outils de mesure qui nous permettent de l'affirmer. Par exemple, est-ce que dans la population des intermittentes et intermittents du spectacle, à la fois techniciens, techniciennes et artistes, nous avons à peu près la même composition que celle qui est celle de la société française? Je ne le crois pas. Est-ce que, et on a quelques exemples d'ailleurs d'études ponctuelles qui nous donne déjà des indices, des indications. Je ne sais pas si vous l'avez vu, mais il y a maintenant un peu plus d'un an, une étude qui s'appelle Sinégalité a été lancée à la fois à la demande du ministère de la Culture et du collectif 50-50 pour mesurer dans les films les plus vus et avec les budgets les plus importants sortis en 2019, donc avant la pandémie, pour mesurer la présence ou l'absence de la diversité, à la fois sur la couleur, sur l'origine sociale, sur le genre. Et les résultats de cette étude sont à peu près dramatiques. Sur le handicap aussi, les résultats sont dramatiques. C'est-à-dire que cette diversité-là ne se reflète absolument pas dans ce qu'on voit à l'écran. Et quand la diversité est présente, elle l'est de manière négative. Et donc, ça interroge beaucoup sur la démarche même, sur le processus même de constitution de l'objet culturel, de la production culturelle qui sera donnée à connaître à un public. Et donc la permanence des stéréotypes et de l'assignation ne peut qu'être accrue, ou en tout cas maintenue, si la responsabilité majeure de nos institutions culturelles, de la production, des productions culturelles qui sont données à la connaissance du public, continue de véhiculer ces stéréotypes, ces idées reçues sur toute une série de critères de discrimination que j'évoquais tout à l'heure. Donc, pour en revenir à votre question, oui, évidemment, on peut toujours utiliser ces chiffres contre-courant de ce à quoi ils ont vocation de servir. C'est-à-dire que nous, notre idée, évidemment, c'est de mesurer pour combattre, c'est de mesurer pour promouvoir, c'est de mesurer pour faire sa place à cette diversité dans l'ensemble des productions, des institutions qui relèvent du champ culturel et artistique. S'en servir pour empêcher, pour faire obstacle, C'est toujours envisageable. Simplement, je ne pense pas que ce soit la mesure qui soit le déclencheur de l'une ou de l'autre. Moi, j'en ai besoin de cette mesure, et on a plusieurs manières d'y accéder, soit par des enquêtes qui posent des questions aux populations interrogées, soit par l'utilisation de la méthode dite par l'INED onomastique, c'est-à-dire l'étude des prénoms et des noms pour approcher. Ça n'est pas parfait scientifiquement, mais ça approche la présence ou l'absence d'une diversité d'origine dans la population étudiée. Donc ces outils de mesure permettent, et je l'espère en tout cas à court terme ou à moyen terme, d'avoir une vision plus exacte et plus directe de la présence de la diversité dans nos secteurs culturels et artistiques, pas simplement pour compter, mais un peu comme nous l'avons fait dans le champ de l'égalité femmes-hommes. Une fois qu'on a compté, on constate les obstacles, on les approche et on les définit mieux, et puis on prend des mesures pour les combattre. Et ces mesures de discrimination positive, je pense qu'elles sont aujourd'hui indispensables à plein d'égards, parce que continuer à nier l'évidence, à nier la réalité des discriminations, notamment liées à l'origine, mais également aux autres critères d'exclusion, c'est mettre d'une certaine mesure, enfin, c'est mon point de vue, on peut ne pas être d'accord, mettre d'une certaine mesure en péril l'accès même à la culture et la légitimité même d'une politique et de nos institutions culturelles. Si toute une partie de notre population ne s'y retrouve pas, ne s'y reconnaît pas, quelle légitimité, quelle crédibilité sur le moyen terme, sur le long terme, continue-t-on d'avoir ? Et je pense que c'est une question crucial, fondamental, que nous ne pouvons plus éluder aujourd'hui.
Nous avons une question par ici.
Merci. J'avais une question précise. Je voulais savoir s'il existait, alors je ne sais pas si c'est à vous qu'il faut que je pose la question, mais j'en profite. Est-ce qu'il existe des outils de poids qui peuvent peser dans les cas où l'on rencontre, où on fait face à de la censure, précisément face, par exemple, à mise en avant de collections, en tout cas une volonté de mise en avant de collections LGBT ou sur le racisme. Et que face à, dans le cas d'une bibliothèque municipale où c'est la mairie qui est l'employeur, où finalement la mairie met un peu un frein pour aller dans ce sens, et dans une mesure plus individuelle, dans le cas d'un agent qui peut-être s'auto-censurerait concernant une thématique du même genre, justement, soit dans l'éventualité où la personne envisage que son employeur serait contre, ou peut-être par des propres questionnements. Donc voilà. Est-ce qu'il y a des outils à la fois pour peser, pour que l'employeur, enfin que la mairie aille dans ce sens, et peut-être pour s'aider soi-même enfin voilà.
C'est une question difficile, je ne suis pas sûre d'avoir toutes les réponses, mais peut-être en esquisser quelques-unes. L'autocensure, d'une part, l'empêchement, l'auto-empêchement, il me semble que l'un des meilleurs outils, ce sont peut-être les formations qui permettent d'abattre à la fois les préjugés, les obstacles qu'on peut se poser à soi-même. C'est-à-dire oser, finalement, et oser comment peut-on mieux oser en étant outillé, en étant formé, en connaissant le droit des discriminations, en connaissant les risques qui prévalent dans l'ensemble de nos sociétés, et donc en se prémunissant sans doute mieux contre ce risque d'auto-empêchement. Maintenant, par rapport à l'employeur auquel vous faites allusion, que l'employeur soit l'État ou le plus souvent les collectivités territoriales, est-ce que la loi bibliothèque ne constitue pas quand même un garde-fou solide, sérieux, qui n'est peut-être pas aussi couvrant qu'on peut l'espérer, mais qui, n'empêche, pose des principes très clairs de liberté dans la constitution des collections, dans l'accès des publics aux ouvrages. Alors peut-être y a-t-il d'autres réponses que je connais moins que vous, mais il me semble quand même qu'on n'est pas complètement démuni, même si, bien entendu, face à une collectivité qui mettrait violemment ou pas violemment obstacle à cette politique d'exposition d'ouvrages sur la colonisation, sur le racisme, sur l'orientation sexuelle ou sur l'identité de genre, sur l'égalité entre les femmes et les hommes. La solitude bibliothécaire ou médiathécaire doit être grande. Mais est-ce qu'il n'y a pas également des réseaux de solidarité, notamment ceux qui sont à l'œuvre, ne serait-ce que dans l'organisation de ces journées, qui permettent aussi peut-être de combattre ce risque de dialogue inégal entre la bibliothèque ou la médiathèque et la collectivité employeuse. Je sais que les situations sont parfois difficiles, mais mon point de vue, évidemment, il est fort, c'est-à-dire de maintenir au maximum et le plus loin possible ces enjeux de visibilité, de l'égalité, de la diversité.
En effet, il y a la loi bibliothèque et quand même on peut dire qu'on a la chance d'avoir une profession très bien structurée et organisée. Je rappelle qu'il y a un comité d'éthique au sein de l'Association des bibliothécaires français à qui on peut toujours faire appel, exposer des problèmes et auprès de qui avoir des conseils et du soutien. Et je crois qu'Antoine avait un élément de réponse complémentaire à apporter.
Merci beaucoup, Éléonore. C'est forcément des éléments partiels parce que je pense que dans nos collectivités, on est tous et toutes régulièrement démunis face à cette question pour une raison simple, c'est que c'est les mairies qui décident de l'orientation des bibliothèques et que nous, on obéit. Et que même si on a envie de réagir pour des raisons éthiques, On n'est pas souvent en position de le faire. Mais dans les solutions qu'on peut imaginer, qu'on peut envisager, il y a quand même les partenaires locaux. Une des grandes forces des bibliothèques, c'est qu'on travaille avec beaucoup, beaucoup de partenaires associatifs et que, en fait, dans la réalité, on est très soutenu et on sous-estime la force de nos partenaires. Qu'est-ce que je veux dire par là ? La mairie, le maire, les élus, ils ne sont pas idiots, donc parfois il faut prendre le temps de leur expliquer et puis il faut prendre le temps de leur faire expliquer par d'autres. Et dans beaucoup de cas, ça demande du travail et en fait c'est un combat, c'est pas un combat contre les élus, mais c'est un combat pour nos valeurs et pour nos établissements qui à la fin rejoignent l'intérêt des élus et du public qu'ils représentent. Il y a des associations qui sont très puissantes. Il y a des structures dans nos villes, dans nos villages même, qui ont beaucoup de pouvoir, qui ont beaucoup d'influence et auxquelles les élus vont faire attention. Donc quand on sait qu'on va aborder, je prétends pas du tout avoir les solutions ultimes, hein, dans la plupart des cas je les ai pas, mais dans certains cas, quand on sait qu'on va aborder une question délicate, bah d'abord c'est aussi connaître les élus et leur position pour pouvoir l'anticiper un peu, il faut se rapprocher des partenaires forts. Je prends deux exemples. On a réussi à faire des expositions sur des sujets que la mairie ne nous aurait pas demandé spontanément, mais elle n'était pas contre, hein, mais en s'associant avec le Rotary. Vous voyez, on ne pense pas toujours à ce genre de structure, mais il y a des gens de très très bonne volonté, très ouverts, qui sont, comme beaucoup dans ce pays, très volontaires pour lutter contre les discriminations et les inégalités. Et il y a beaucoup de gens, en fait, dans une ville en dehors des bibliothèques. Et il y a des combats qu'on ne peut pas gagner seul. Et puis, il y a des combats qu'on perd. Donc, parfois, il faut aussi... Et c'est peut-être le plus dur. En tant que bibliothécaire, on n'aime pas travailler pour rien. Donc, peut-être que c'est quelque chose qu'il va falloir qu'on apprenne à faire. Apprendre que parfois, il faut perdre pour, de temps en temps, faire des belles victoires.
Alors, tout à l'heure, vous avez évoqué à la fin de votre intervention les territoires ultramarins. Et c'est vrai que en général, et vous avez aussi évoqué les nominations dans les territoires ultramarins, c'est souvent des gens qui viennent du territoire métropolitain. Mmh. Est-ce que il y a des groupes de travail ou des choses qui sont faites concrètement pour que la diversité... Enfin, pour le coup, c'est à l'inverse que je le vois, mais du coup, dans des institutions culturelles, que ces institutions soient dirigées par des personnes qui viennent de ces territoires-là directement. Voilà, est-ce que ce travail-là est fait? Puisque, pour plein de raisons, ce type de journée d'études, plein de gens qui vivraient à La Réunion ou en Martinique ne pourraient pas y accéder tout simplement par le fait de la nature. Du département ultramarin. Donc, qu'est-ce qui est fait concrètement là-dessus ?
Alors, la question des outre-mer est une question essentielle dans tous les sens. D'ailleurs, comme vous le dites très justement, le fait que souvent les structures culturelles locales ne sont pas nécessairement, c'est pas toujours le cas, mais enfin, ne sont pas nécessairement confiées à des personnes issues de ces territoires. D'autre part, il y a dans l'autre sens une absence très problématique, dans tous les sens du terme, de visibilité des artistes, créateurs, créatrices venant d'outre-mer sur l'ensemble des structures culturelles de métropole. Et on considère quand même qu'il n'est pas normal que ces échanges ne fonctionnent pas autant qu'ils devraient fonctionner dans les deux sens. Et donc, on sait que, enfin, au ministère de la Culture, dans les directions des affaires culturelles qui sont sur ces territoires ultramarins, cette question-là, elle est travaillée. Je ne dis pas du tout qu'on est parvenu au bout du chemin. Pour autant, on voit, alors peut-être y en a-t-il dans le domaine des bibliothèques, mais je ne les connais pas, on voit des initiatives qui se créent, qui sont intéressantes. Et la dernière en date, qui est d'ailleurs aussi l'une des premières, parce qu'il n'y en a pas tant que ça, c'est la démarche qu'a engagée, justement à la suite du comité dont je parle, enfin du rapport diversité dont je parlais tout à l'heure, et d'un comité diversité qui s'est mis en place à l'Opéra National de Paris auquel je participe, l'Opéra a décidé, là aussi, parce qu'il se pose exactement les mêmes questions que nous, et c'est bien parce qu'il est temps, a décidé de s'interroger sur la diversification des viviers de recrutement à l'école de danse, dans les chœurs, dans l'orchestre, dans les équipes techniques et administratives, et notamment, s'agissant de l'école de danse, se dire que le concours de l'école de danse est ouvert à tous les enfants, c'est très généreux de le dire comme ça, mais en réalité, c'est très inégalitaire, parce que seuls les familles qui en ont entendu parler peuvent imaginer que leur enfant s'y présente. D'autre part, il y a des obstacles à la fois géographiques, économiques, en considérant que beaucoup de personnes ne peuvent pas faire en sorte que leurs enfants présentent et réussissent ce concours. Et dans cette démarche-là, l'opéra est allé assez loin, à la fois en travaillant sur l'ensemble du territoire national, mais aussi en expérimentant, et c'est tout récent, hein, ça a été fait il y a 2 mois, et ça va se prolonger, se poursuivre, en expérimentant une collaboration avec la Guyane, en se disant finalement que c'est en allant sur place, en repérant les talents et en emmenant des professeurs, des étoiles du corps de ballet pour travailler avec les conservatoires locaux en Guyane, qu'on pourra le plus utilement faire connaître d'une part l'opéra, son école de danse, son corps de ballet, mais également qu'on pourra efficacement repérer les talents. Donc je veux dire par là que, et ça a formidablement marché, cette première expérience de 2 mois sera suivie de 2 autres périodes de 2 mois encore en avril, enfin au printemps et puis ensuite à la rentrée, et on pense que ça va créer un mouvement et un flux dans les 2 sens d'ailleurs, à la fois d'intérêt pour l'opéra et de diversification des viviers de recrutement. C'est un exemple ponctuel, ça va concerner quelques dizaines d'enfants, mais c'est déjà un signal. Et il me semble que, vis-à-vis des Outre-mer, on a cette responsabilité-là, majeure, de reconnaître la réalité des talents qui s'y déploient, de leur faire une place sur l'ensemble des scènes de spectacles, sur l'ensemble des institutions culturelles métropolitaines, mais également faire en sorte, comme vous le disiez, que les nominations qui, on l'a vu dans le domaine de l'égalité femmes-hommes, sont quand même très emblématiques d'une volonté politique, reflètent là également la capacité des populations locales, ultramarines, de prendre en charge, de prendre en main le devenir des structures culturelles du territoire. Je pense que là, c'est une volonté politique qui doit être mise en œuvre. C'est le cas, parfois, inégalement encore, mais je pense que c'est c'est une question majeure, à la fois de visibilité, mais également d'effectivité des politiques de diversité.
Merci beaucoup. Je crois qu'on est obligé de s'arrêter là. Je vois bien que ça pourrait durer, mais l'heure tourne et nous avons encore des intervenants à entendre.